Berlin.
It's morning edition from NPR News.
Let me think that people house.
Hey, I'm Radio Rosalie Paris.
Produce get on the radio.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, on est en Argentine et aussi autour d'ailleurs. L'Argentine, c'est l'un des géants de l'Amérique latine englué dans une crise économique qui aboutira probablement au retour des péronistes au pouvoir. Le vote, c'est ce dimanche. L'Argentine et ses voisins, les soulèvements sont simultanés en ce moment. Une vague de contestation, mais on verra réellement si tout se ressemble. Le bruit du monde est en Syrie ce soir, ou comment on exfiltre des journalistes dont la vie est en danger. C'est Claude Guibal qui nous raconte cette histoire. Et puis Amélie Perrier nous emmène sur une marée noire oubliée au Brésil. Elle nous fera rencontrer aussi une instagrammeuse qui a 11 ans, elle est russe. 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, avec Angélique Bouin, quand l'Europe, quand elle ne parle pas de Brexit, essaye de sauver les abeilles. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Est-ce que l'Amazonie met le pied dans la porte du mariage des prêtres? Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Dès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Gaspard Estrada.
Bonsoir.
Vous êtes directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. On était parti pour parler Argentine ensemble, qui vote donc pour les présidentielles ce dimanche. On va être obligé d'élargir un petit peu notre focale, d'aller regarder chez les voisins, de se demander pourquoi l'Amérique latine se rebelle en ce moment contre ses leaders de manière assez différenciée. Mais tout de même, du coup, j'ai envie de commencer par là. Est-ce que vous voyez un fil conducteur, une sorte de fil rouge dans ces irruptions de manifestations? Il y a quelque chose de commun là-dedans ou pas?
Alors, en effet, il s'agit de manifestations qui ont des origines nationales, c'est-à-dire chaque pays a sa propre réalité. Néanmoins, je pense que l'Amérique latine va mal sur le plan économique. Les années 2000 avaient été marquées par une réduction de la pauvreté, une baisse des inégalités, qui est vraiment le drame de la région latino-américaine. Et aujourd'hui, dans la décennie 2010, on voit que les choses vont plus mal, puisqu'il y a moins de croissance, il y a moins de redistribution. Et cela aussi coïncide avec une hausse des scandales de corruption qui mettent à cran la société, des sociétés qui sont de plus en plus polarisées. On le voit dans des pays qui sont à droite, mais on le voit aussi dans des pays qui sont gouvernés par la gauche.
Et c'est peut-être ça finalement le fil conducteur. On parle d'économie partout effectivement, mais il y a chaque fois un scandale de corruption qui se cache derrière toutes ces irruptions de colère et de violence en fait.
Corruption et je dirais même plus loin, c'est-à-dire qu'il y a une défiance des sociétés vis-à-vis des élites politiques, des élites économiques, et je pense que c'est même plus grave, parce que disons que la corruption a toujours existé en Amérique latine, elle a été mise en lumière par la révélation de scandales de corruption, mais la corruption n'est pas l'alpha et l'oméga de la politique dans la région, et je pense que c'est plus grave puisque les médias sont aussi en cause en Amérique latine, et je pense que c'est quelque chose d'assez inquiétant.
Alors ce qui se joue aujourd'hui, c'est aussi qu'il y a des calendriers communs. L'Argentine va voter, mais aussi la Bolivie, mais aussi l'Uruguay, donc ces périodes électorales sont toujours des moments où justement il y a un terrain électoral pour s'exprimer. Et ce qui est intéressant aussi à comparer quand même, c'est qu'on a l'impression que le balancier est un peu le même. Vous avez parlé de cette première vague 2000, une espèce de vague progressiste de ces 15 dernières années, et puis un retour à droite qu'ils ont tous fait quasiment en même temps. Alors, comparaison n'est pas raison, mais en tout cas dans le même mouvement. Et là, à nouveau, on voit la gauche revenir dans les scrutins à venir. On a l'impression que le balancier est assez est un peu commun, en fait.
Je pense que ce qu'il y a surtout, c'est qu'il y a, et ça c'est un point, je pourrais dire, qui est positif pour la région, c'est qu'il y a une alternance et que les alternances existent, et l'alternance est la base de la démocratie. Donc de ce point de vue-là, on pourrait dire que c'est plutôt un signe de bonne santé de la démocratie en Amérique latine. Il ne faut pas oublier que jusque dans les années 80, l'Amérique latine était gouvernée pour la plupart des pays par des dictatures militaires. Cela étant dit, là où ma vision est beaucoup plus nuancée, c'est que ces alternances se déroulent dans des contextes beaucoup plus dégradés qu'il y a une dizaine d'années, puisqu'on voit bien, et le cas bolivien le montre, que les gouvernements ont du mal à lâcher, à respecter les résultats du scrutin, et ce qui est assez paradoxal dans le cas bolivien, puisque M. Morales est arrivé en tête des élections.
Alors il a un peu mis d'eau dans son vin, là, aujourd'hui, en disant que, oui, pour lui, il était arrivé en tête dès le premier tour, mais qu'il pouvait envisager en deuxième tour, mais j'allais justement vous poser la question, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a parfois une espèce de tentation d'un durcissement autoritaire, c'est assez clair chez Morales, mais au fond, quand on voit Piñera au Chili qui met des militaires dans la rue, qui tire, il y a eu 18 morts. Donc, est-ce qu'il y a cette tentation au fond qui existe en Amérique latine, ou est-ce que c'est une forme de panique aussi de ces présidents-là?
Alors moi, je pense que c'est en effet quelque chose d'assez...
Est-ce que c'est intrinsèque, vous voulez dire?
Pas intrinsèque, parce que je ne veux pas tomber sombrer dans le culturel. libéralisme. Mmh. En revanche, je constate qu'il y a en effet une tendance, un mouvement autoritaire,
un réflexe qui
moi m'inquiète, d'autant plus qu'il s'agit de gouvernements de droite comme de gauche. Mm-hmm. Et je pense que de ce point de vue-là, ce qui se passe au Brésil, où Monsieur Bolsonaro est ouvertement contre les valeurs de la démocratie, en faveur de la torture, tout cela m'inquiète compte tenu de l'histoire de l'Amérique latine.
Alors allons-y dans cette Argentine qui vote, qui est quand même l'un des géants, effectivement, dans une situation très difficile. Mauricio Macri, qui est arrivé il y a 4 ans, centre droit, très grande difficulté dans les sondages. J'ai noté cette phrase qui m'a quand même un peu scotché. Il dit « Je croyais que remettre l'économie d'aplomb allait être plus simple ». Est-ce qu'il a péché par excès de confiance, ce Mauricio Macri, ou pas ?
Oui, je le pense. D'autant plus que le cœur de son message, lorsqu'il a été élu en 2015, était se placer sur la question économique. Il disait aux Argentins « Grâce à moi, l'Argentine ira mieux sur le plan économique. Je vais attirer des investissements étrangers. Je vais remettre l'Argentine sur la scène internationale. » Alors certes, l'Argentine est revenue dans les marchés internationaux de capitaux. Il y a eu énormément de promesses d'investissement, mais malheureusement, ces promesses ne sont pas transformées en une réalité. Et donc, malheureusement, sa stratégie économique n'a pas fonctionné. L'environnement international ne l'a pas aidé. Et aujourd'hui, l'Argentine est sur le point d'être en banqueroute.
Alors, est-ce qu'on dit que c'est d'ailleurs cette crise en valeur absolue, on va dire, parce que 20 ans, c'est long, presque 30, mais est-ce qu'on est dans une crise aussi violente, aussi profonde que la précédente, donc 20 ans, celle de 2001, ou pas ?
Pas pour le moment, mais
alors, il y avait des émeutes de la faim en 2001.
Bien sûr, donc
c'est compliqué.
C'est très compliqué. Bon, je pense que l'élément important, c'est qu'il y aura une élection présidentielle, c'est-à-dire que les Argentins pourront s'exprimer par rapport à leur modèle de société. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que aussi les paroles du candidat Alberto Fernández vont dans le bon sens, dans le sens où il dit « je ne veux pas répéter les erreurs de Cristina Kirchner, je ne veux pas fermer l'Argentine au monde ». Et cela est louable. La question est de savoir comment est-ce qu'il le fera dans les conditions qui sont celles de l'Argentine d'aujourd'hui.
On va y aller vers Alberto Fernández. Une dernière question sur la manière dont Macri a travaillé. Est-ce qu'il a précipité au fond la crise ? Est-ce qu'il a juste pas trouvé la clé non plus ? Parce que ce qui est assez frappant, c'est au même mot les mêmes remèdes. Il y a eu ces fameux 57 milliards qui venaient du FMI. L'Argentine qui avait déjà accusé le FMI d'être responsable de la très grande pauvreté. Est-ce que c'est ça aussi qui forge sa très grande impopularité pour l'instant ?
Sans aucun doute, d'autant plus que le FMI n'a également pas appris visiblement les leçons du passé.
A cru aussi que c'était le remède miracle d'arriver avec l'argent, c'est pas vrai.
Non, et le remède miracle avec un plan d'ajustement structurel,
bien sûr, ouais.
Avec ce qui va avec. Et de ce point de vue-là, le traitement de cheval ne va pas non plus aider à l'Argentine à se remettre sur pied.
Alors, vous avez parlé d'Alberto Fernández, effectivement, qui est le challenger, qui, selon toute vraisemblance, sera élu parce que l'écart dans les sondage en tout cas est très important, qui a cette colistière qui est Cristina Kirchner. Est-ce qu'il est... C'est qui Fernández au fond ? Est-ce qu'il est prisonnier de l'ombre de Kirchner derrière lui ? Est-ce que c'est vraiment lui qui mène et elle qui est derrière ? Est-ce qu'il est prisonnier de cette famille-là ? C'est quoi le lien finalement entre ces deux-là ?
Bon, le lien, tout d'abord, il y a un lien politique, puisque Alberto Fernández a travaillé pour le mari de Cristina Kirchner.
Il était son directeur de cabinet. Qu'il est toujours dans l'ombre de la famille, en fait.
Certes, la grande différence, et je pense que c'est l'élément central entre, par exemple, le cas entre Dilma Rousseff et Lula, c'est que Alberto Fernández, en 2008, a rompu avec le couple Kirchner. Et donc, c'est ce qui lui donne aujourd'hui sa crédibilité, notamment dans les milieux patronaux, notamment dans les milieux plus conservateurs du parti péroniste, qui n'aime pas du tout Cristina Kirchner. Et c'est ce qui a permis à Alberto Fernández de nouer une très grande coalition qui lui permet d'obtenir les intentions de vote qu'il a aujourd'hui.
Mais pourquoi, au fond, il a besoin de Cristina Kirchner, puisque effectivement, il peut prendre son envol tout seul. À quoi elle lui sert réellement
Ça lui a donné un socle électoral, puisque cette opération a été réalisé dans une période assez courte. Monsieur Alberto Fernández a été nommé en tant que candidat au printemps, donc pour une élection qui se déroule à l'automne. C'était quand même assez un laps de temps assez court, et ça lui a permis d'avoir une ossature. Et lui, ce qu'il a amené à ce ticket, c'est sa capacité de dialogue avec les milieux patronaux et notamment avec les classes moyennes.
Donc elle l'aide réellement, elle ne le plombe pas, parce que je pense à sa mise en examen, je sais plus comment, il y a 13 affaires différentes connexes. Donc c'est, et on disait tout à l'heure en parlant des voisins mais aussi de l'Argentine, il y a une vraie fatigue des histoires de corruption. Est-ce que c'est pas un caillou dans sa chaussure quand même à un moment?
Ça pourrait devenir un caillou dans sa chaussure, notamment si ces affaires sont avérées, puisqu'il faut pas non plus oublier qu'en Amérique latine, l'Amérique latine a un problème de politisation de la justice, notamment en Argentine, mais aussi au Brésil. Donc, de ce point de vue-là, est-ce que ces affaires seront réellement des affaires ou, comme pour paraphraser Jacques Chirac, est-ce qu'elles feront pchit? On l'ignore pour le moment. Et malheureusement, en Argentine, le sens de la justice suit, de manière générale, le sens du pouvoir.
Donc, on verra si, comme au Brésil, subitement, un juge se retrouve tout en haut du pouvoir et ça pourra peut-être dire quelque chose. Il promet de sortir l'économie de l'ornière, évidemment. Alberto Fernández, est-ce qu'il en a les moyens? Est-ce qu'il a un plan? Est-ce qu'il a quelque chose qui semble auquel les gens semblent adhérer, ou est-ce qu'ils vont voter par défaut parce qu'ils veulent plus voter pour Macri?
Je pense qu'il y a d'un côté une volonté de changement et donc de voter contre Macri compte tenu de son impopularité, mais je pense qu'il y a aussi en Argentine une relation assez fusionnelle avec le péronisme. C'est quand même le parti qui a gouverné l'Argentine lorsque l'Argentine a vécu en démocratie. Ce serait, si Mauricio Macri arrive à la fin de son mandat, ce que tout porte à croire, ce serait la première fois depuis 1924 qu'un président non péroniste arrive à la fin de son mandat. C'est déjà un succès pour monsieur Macri.
Le débat sur l'avortement, dont on a nous ici beaucoup parlé, est-ce qu'il a été réellement très présent dans la campagne? Pour le coup, on a l'impression que Macri a durci sa position parce qu'il fallait s'attirer cette droite-là. Est-ce que ça a été vraiment un enjeu dans cette campagne ou pas?
Ça a été un enjeu, mais qui n'a pas déterminé ou qui visiblement ne détermine pas le vote. En revanche, je pense qu'il y a eu une parole de monsieur Fernández lors du dernier débat télévisé où il a ouvertement prôné la légalisation de l'avortement, ce qui était un message fort. Je ne pense pas que cela va changer le résultat du scrutin, mais en même temps, je pense que il s'agit là d'une victoire pour tous les mouvements qui ont défendu la dépénalisation de l'avortement durant le mandat de Mauricio Macri, puisqu'on voit bien que si Alberto Fernández arrive au pouvoir, compte tenu de la réalité au Parlement, où visiblement il aura une majorité, cette réforme pourrait être menée à bien.
Ça veut dire qu'il y aura un nouveau vote, en fait, et peut-être rapidement si Fernández est élu ou pas?
Tout dépend du calendrier parlementaire qui sera mis en place par Alberto Fernández, mais clairement, il y a une volonté qui est portée par le candidat, qui dit « je veux dépénaliser l'avortement en Argentine et je pense que c'est une bonne chose ».
Un dernier point, peut-être deux, Gaspard Sarda, si on a le temps. D'abord, est-ce qu'une victoire d'Alberto Fernández en Argentine peut avoir d'autres conséquences plus générales? Je pense au Mercosur, par exemple, au marché commun du Sud, aux relations entre l'Europe et le Mercosur, parce qu'il a déjà dit qu'il trouvait que c'était pas forcément une bonne idée. On sait que les voisins brésiliens ne voient pas du tout d'un bon œil l'élection de Fernández, y compris par rapport à cet accord-là. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des lignes importantes qui vont bouger de ce côté-là?
Sans aucun doute, l'Amérique latine va changer si Alberto Fernández arrive au pouvoir, ne serait-ce que compte tenu des relations bilatérales entre l'Argentine et le Brésil et l'impact que cela peut avoir dans l'avenir du propre marché commun d'Amérique du Sud. Jair Bolsonaro a annoncé hier que le Brésil serait prêt à quitter, à faire que l'Argentine quitte le Mercosur si l'Argentine n'adoptait pas des mesures pro-business.
Que le Brésil quitte le Mercosur si l'Argentine ne...
Non, pardon. Que le Brésil, avec le Paraguay et l'Uruguay, expulse l'Argentine, ce qui serait quand même quelque chose d'inédit et dont on mesure mal les conséquences.
Et pour nous, d'ailleurs, également.
Bien sûr, puisqu'il y a le l'accord de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne qui est en cours de ratification par les parlements. Et si le Mercosur n'existe plus, je vois pas comment cet accord pourrait exister.
Un tout dernier point, il nous reste une poignée de secondes, pardon. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de Venezuela. Est-ce que la redistribution des cartes en Amérique latine, d'une manière générale, isole encore un peu plus ce pays? Est-ce qu'il, l'Amérique du Sud, est-ce qu'il divise en tout cas ce continent sur l'attitude à avoir vis-à-vis du Venezuela?
Ah, très clairement, le Venezuela était un enjeu de la campagne argentine, comme de manière générale les campagnes électorales en Amérique latine. Monsieur Fernandez a adopté une position qui est plus en retrait que Monsieur Macri. Il ne souhaite pas maintenir l'Argentine dans cet axe de pression vis-à-vis du Venezuela. Il veut agir plutôt comme une puissance médiatrice. Et donc, de ce point de vue-là, si l'Argentine donc passe à gauche, cela pourra contribuer à ce qu'il y ait moins de pression de la part des gouvernements sud-américains vis-à-vis de Caracas. Cela étant dit, la situation au Venezuela est cauchemardesque et l'empire de jour en jour. Et donc, de ce point de vue-là, s'il n'y a pas des acteurs qui puissent promouvoir le dialogue, je ne vois pas comment on pourra trouver une solution. Et donc, de ce point de vue-là, toute médiation possible est une bonne chose.
Gaspard Estrada, directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Merci beaucoup de votre passage dans un jour dans le monde.
Le 18-20. Fabienne Saintès sur France Inter.
Le 18-20, la suite c'est Le Bruit du Monde. Vous apprendrez qu'on essaye en ce moment même en Syrie d'exfiltrer des journalistes dont la vie est en danger. Un certain nombre d'ailleurs ont pu être exfiltrés et vous entendrez l'un d'eux. Le Bruit du Monde sous les radars, c'est vous Amélie Perrier avec une marée noire au Brésil. Tiens, on reste sur le même continent dont on ne sait rien.
Oui, très mystérieuse, on ne sait pas d'où elle vient, mais en tout cas ça fait râler beaucoup de personnes, dont les footballeurs en ce moment au Brésil.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Et Angélique Boin qui, comme tous les jeudis, sera là. On va quitter le Brexit momentanément. Angélique, si vous le voulez bien, on parlera d'abord peut-être, non ?
Absolument, et de leur protection, car il y a eu un vote très important hier au Parlement européen.
A tout à l'heure, le monde à l'envers avec Jean-Marc Four, la femme
que
d'un...
la paix soit avec
mais
vous.
Oui, la femme d'un prêtre en Amazonie, Jean-Marc, on l'appelle Madré ou pas ?
Mais écoutez, une révolution est peut-être en marche, ni vue ni connue dans l'église, je vous raconte tout ça tout à l'heure.
Allez, à tout de suite, tout le monde, le tour de la planète n'est pas fini, il passe par le Royaume-Uni, tiens, encore lui. Tricky, Evolution, Revolution, Love, quel rusé ce Tricky.
This revolution has just begun. chest, tip on my breast, top on my earth, tip on my rock, walking down the road with my soul in my hand, tip on my toes, top on my spine.
Le bruit du monde est en Syrie ce soir avec une histoire particulière et le portrait d'un homme. D'abord, vous savez qu'un accord a été trouvé pour suspendre l'offensive turque contre les Kurdes dans le nord de la Syrie. Les bombardements, en revanche, continuent dans la province d'Idlib où Bachar al-Assad s'est rendu la semaine dernière en promettant d'écraser les derniers rebelles, fermer les guillemets. Une bataille qui continue de se jouer loin des caméras occidentales, forcément, et le plus souvent aussi loin des caméras syriennes, parce que selon Reporters sans frontières, plus de 230 journalistes syriens sont morts depuis le début du conflit en 2011. Des dizaines sont toujours en danger. Une vaste opération d'exfiltration a permis d'en évacuer une trentaine vers des pays européens. Et parmi ces gens, il y a Hossan El-Barom. Il est journaliste à Dera et son histoire, il l'a confiée à Claude Guibal.
Dera. C'est là que tout a commencé, là qu'en avril 2011, de jeunes collégiens de cette ville du sud de la Syrie sont arrêtés au cours d'une manifestation. Enthousiasmés par les printemps arabes, ils ont réclamé le départ de Bachar al-Assad. Un mois plus tard, le corps supplicié de l'un d'eux, Hamza al-Ratib, 13 ans, est rendu à sa famille. Il porte de nombreuses marques de torture. Cette mort devient le catalyseur de la révolte syrienne. Son visage devient un symbole. À cette époque, Hossam El-Barom est étudiant en dernière année de sciences politiques. Il participe aux premières manifestations à Dera.
Quand j'ai commencé à voir les jeunes se faire tirer dessus pendant les manifestations et mourir sans que personne ne sache ce qui se passait, j'ai décidé de travailler là-dessus et de filmer les manifestations. Et avec d'autres, nous avons diffusé ces infos sur Facebook et pour tout le monde.
Hossam devient alors correspondant de Radio Rosanna qui, depuis Paris, se fait la voix de la Syrie en révolte, un métier qu'il apprend sur le tas dans la douleur et la clandestinité.
Dans ce genre de contexte, les journalistes doivent faire très attention pour rester en vie. Il faut réussir à garder un certain équilibre. Le journaliste doit faire à la fois très attention à tout, au régime, aux djihadistes, mais aussi aux rebelles pour ne pas devenir leur ennemi.
Hossam travaille avec son téléphone portable, il enregistre, filme, documente comme il peut. Il faut travailler vite, discrètement, ne pas mettre en danger ses proches, ne pas se faire repérer par les agents locaux fidèles au régime.
Ceux qui participaient avec moi aux manifestations en 2011, tous étaient mes amis. Parce qu'il fallait se donner du courage d'aller manifester pour la révolution face au régime. Mais ceux qui sont encore en vie se comptent sur les doigts d'une main.
En 2018, au terme d'une bataille féroce, le régime syrien, aidé par l'armée russe, reprend la ville. Situation intenable pour les journalistes qui se savent des cibles prioritaires. Ils fuient vers Idlib avec les rebelles évacués, puis vers la Turquie. Alertés par des ONG syriennes, Reporters sans frontières recense des dizaines de journalistes comme Hossam en danger. Une vaste opération d'exfiltration est montée. Au terme d'un marathon de négociations diplomatiques avec la Turquie et l'Europe, l'Allemagne, l'Espagne, la France acceptent d'accueillir une trentaine de reporters. Blessé lors de son exfiltration, passé à tabac par les gardes-frontières turcs, Hossam a été accueilli, lui, par la France. À distance, il suit aujourd'hui la lente désagrégation de son pays. Le pilonnage d'Idlib depuis avril par le régime, à peine relayé par les médias internationaux, par manque de sources d'informations et par lassitude. L'offensive turque sur le nord de la Syrie, déclenchée mi-octobre pour chasser les forces kurdes du long de la frontière, ne lui laisse que colère et amertume.
Bien sûr, je suis en colère. Je me sens impuissant. Si nous avions un peu mieux compris et anticipé les équilibres internationaux, peut-être aurions-nous pu rester sur nos
terres.
Je suis très triste pour ces jeunes qui ont été des cartes dans le jeu des différents belligérants. Beaucoup, beaucoup de jeunes sont morts dans le cadre de ce jeu de puissants en Syrie. Tant de morts, cela me remplit de chagrin.
Pour Sabrina Benoui, de Reporters sans frontières, les journalistes comme Hossam ont été essentiels pour la compréhension du conflit.
On a entre 230 et 270 journalistes qui sont morts. Il y en a parmi eux une assez grosse proportion dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, probablement morts, exécutés ou morts sous la torture. Sans eux, on n'aurait jamais su tout ce qui se passait sur le terrain. On n'aurait jamais connu toute l'ampleur des violations et des crimes qui étaient commis.
8 ans d'une guerre qui, au-delà des morts et des destructions, est aussi celle de l'information.
Claude Guibal avec le journaliste syrien Hossam El-Barom. Merci beaucoup. Le bruit du monde sous les radars, c'est Amélie Perrier, c'est tout de suite. Et vous nous emmenez, Amélie, dans un stade de foot au Brésil.
Oui, le match oppose Bahia et Ceará en début de semaine. Et si je vous parle de cette rencontre, c'est parce que les maillots des joueurs de Bahia étaient recouverts de taches noires et que les footballeurs de Ceará portaient des gants noirs pendant l'hymne. Une manière de protester contre une catastrophe écologique en ce moment au Brésil. Une marée noire très mystérieuse. Depuis début septembre, des galettes d'hydrocarbures salissent les plus belles plages du pays, 2200 km de littoral souillé. Et face à ce drame, le président Jair Bolsonaro est accusé de ne rien faire, de ne pas savoir comment gérer la crise. Personne ne sait aujourd'hui d'où vient le pétrole, ni pourquoi il continue d'envahir les plages brésiliennes, pourquoi il continue de tuer les tortues, de mettre en péril des écosystèmes précieux. Voilà ce qu'en dit Bolsonaro. Si ça venait d'un navire échoué, on ne recevrait pas encore du pétrole. Ça ressemble plutôt à un acte criminel, dit Bolsonaro. Le président brésilien accuse en fait le Venezuela de vouloir saboter son marché pétrolier et de mettre en péril une vente aux enchères pour des droits de prospection au début du mois prochain, des contrats de plusieurs milliards de dollars. Il accuse aussi les agences de protection de l'environnement de toujours vouloir mettre tout le monde à l'amende et Bolsonaro n'a pas encore mis les pieds sur les plages envahies par la marée noire. Au début, ce sont des habitants, des volontaires qui ont nettoyé les côtes. Face à la colère, des militaires ont été réquisitionnés. Au début de la semaine, 5000 ont été déployés pour les opérations de dépollution. Pas suffisant face à l'ampleur des dégâts. Et les opposants aux dirigeants de l'extrême droite de rappeler que Bolsonaro et son gouvernement ont condamné le plan national de lutte contre les marées noires. L'écologie, vraiment pas la priorité du président brésilien.
La justice au Bangladesh vient de condamner à mort les 16 auteurs d'un féminicide.
Un crime qui a bouleversé le pays en avril dernier, l'assassinat de Nusrat Jahan Rafi. La jeune femme avait 19 ans. Elle avait porté plainte contre le directeur de son école coranique. Elle l'accusait de harcèlement sexuel. En représailles, des étudiants l'ont piégée et face à son refus de retirer sa plainte, ils l'ont brûlée vive. Émotion immense dans le pays lors de ses funérailles, des manifestations et cette actrice bangladaise, Alisha Pradhan. Les filles, quand elles vont à l'école, elles se font harceler. Dans leur quartier, elles se font harceler. Dans leur famille aussi. Au Bangladesh, dit cette actrice engagée, 70% des femmes victimes d'abus sexuels le sont par des proches, des membres de leur famille. Cela va au-delà d'une simple punition. Oui, aujourd'hui, nous ne sommes pas là que pour Nusrat. Nous sommes ici pour toutes les Nusrat, toutes les victimes. Nous réclamons aujourd'hui, main dans la main, que ça change. Et le Bangladesh est peut-être en train de changer avec la justice. Et la condamnation, donc, aujourd'hui, de 16 personnes pour la mort de Nusrat. 16 hommes, dont le professeur de la jeune fille et trois de ses camarades, tous condamnés à la peine capitale. Tous avaient plaidé non coupable. Une preuve qu'aucun meurtre ne reste impuni, s'est félicité le procureur.
Allez, Amélie, on termine avec une jeune fille à la vie nettement plus légère, là, pour le coup.
Lisa Anokina. Elle a 11 ans, mais c'est déjà une méga star. Elle a 2 400 000 abonnés qui la suivent sur Instagram. Elle est parmi les plus grandes vedettes du web en Russie.
Девочки, вот такая вот прелесть мне пришла. Тут написано Лизия Анохина с любовью, а Саша Айсов.
Voilà ce qu'elle poste, hein. Une story. Voilà, on l'entend un petit peu crier. Une story où elle est super contente, en fait, d'avoir reçu un sweat. Bon, oui, c'est pour ça qu'elle crie. Okay. Sinon, elle s'affiche dans des vidéos, des scénettes avec ses amis. Alors, aucun talent d'actrice, hein. Vous allez, non, vraiment aucun. Des photos très léchées, très travaillées. Lisa fait attention à son look, à son maquillage. Elle reste très discrète sur ses revenus, car tout cela rapporte beaucoup d'argent, évidemment. Les plateformes comme Instagram ou TikTok, un autre réseau social où l'on partage des images, ces plateformes marchent extrêmement bien en Russie, surtout auprès des très jeunes, les pré-ados. Et les ados. Des centres privés ont ouvert des cours à Moscou pour améliorer la maîtrise des réseaux sociaux et gagner des followers. Pourriez-vous vous inscrire, hein, Fabienne? Lisa reconnaît qu'elle passe 8 heures par jour sur son portable, presque autant que vous. Quant à ses parents, on ne les voit pas sur ses comptes. Mais la jeune fille assure qu'ils ont, je la cite, une très bonne approche de sa carrière. Oui, Lisa parle de sa carrière sur Instagram. Elle a 11 ans.
Voilà, bravo pour le travail des enfants. Donc, Amélie Perrier dans Un jour dans le monde, c'est tous les jours. Merci beaucoup. À bientôt. Voici les National Oblivions sur France Inter. À tout de suite.
Like you're not afraid of anything I do.
How won't you hear?
You don't know what it's like to be around you. I still got my fear.
It's a way you say yes when I to marry me. You don't know what you are doing. Do you think you can carry me over the threshold, over and over again until oblivion? It's the way that you're gonna stop needing to tell me you want me as much as I want you to. Tell me I'm over the threshold and everything's gonna be totally okay until oblivion. Still got my
Nationals sur France Inter, Oblivion. Allez, allons donc à Strasbourg retrouver Angélique Bois.
France Inter.
Je suis venu vous parler de...
The
European Union. Géniale.
Un jour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes? Tiens, en parlant de ceux qui partent, on s'est promis, vous et moi, Angélique, de ne pas parler Brexit, pour vous reposer un peu, ne me remerciez pas. Vous êtes en direct du Parlement de Strasbourg, où vous nous dites quand même que, et c'est ça qui est drôle en fait, cette saga britannique n'occupe pas du tout 100% des conversations, loin de là même.
Ah oui, je résiste pas à vous le raconter. Hier soir, vers 20h, au bar des Cygnes, hein, c'est l'un des endroits où les assistants parlementaires prennent un verre en attendant la fin des réunions de groupes politiques, l'un d'eux a même été surpris que je me consacre encore au sujet, c'est vous dire le niveau de lassitude, y compris ici, donc en plein cœur de la bulle européenne.
Voilà, je ne vais pas vous faire de peine, mais je crois que vous n'en avez pas fini. Donc, Angélique, parlons abeilles.
Oui, et de leur protection, c'est un sujet qu'on aime bien au Parlement européen et à France Inter aussi d'ailleurs. C'est un sujet très sérieux qui était à l'agenda des eurodéputés hier. Pour résumer, cela fait des années que des ONG dénoncent le faible niveau de qualité des tests validés par l'Union européenne pour évaluer la dangerosité des pesticides et se débarrasser donc des pires pesticides qui, on le rappelle, déciment les abeilles partout en Europe. La Commission européenne avait donc accepté de renforcer ces tests. Elle avait même préparé une proposition qui aurait convenu aux écolos. Mais sous la pression des États membres, le texte a été très édulcoré. Soumis au vote du Parlement hier, cette réforme qualifiée de réforme au rabais par ses détracteurs a donc été rejetée à une écrasante majorité. 533 voix contre, 67 et 100 abstentions. Écoutez Pascal Canfin, eurodéputé du groupe centriste, c'est le président de la commission environnement au Parlement. Il était très content hier.
Il faut écouter les citoyens. Les citoyens demandent de manière extraordinairement majoritaire de protéger la nature, de protéger les oiseaux, de protéger les abeilles et de sortir progressivement des pesticides. Et ça, c'est vrai partout en Europe. Donc c'est notre rôle au Parlement européen de le faire. On l'a fait aujourd'hui et je m'en félicite. Et maintenant, la responsabilité est dans le camp de la Commission et des ministres de l'Agriculture des États membres pour qu'ils cessent d'autoriser des pesticides qui tuent les abeilles et qu'on passe à autre chose. C'est pas anti-économique de faire ça. C'est pas contre les agriculteurs parce que il y a des substances alternatives. D'ailleurs, en France, on a interdit les néonicotinoïdes. Il n'y a pas une faillite globale de l'agriculture. C'est vrai, ça coûte cher, mais vous avez aussi une étude de l'INRA qui démontre que finalement, ça coûte moins cher à l'agriculteur, sur l'exemple du colza, de polliniser de manière naturelle avec les abeilles pour autant qu'elles survivent, que de dépendre partout des pesticides qui tue les abeilles, et ensuite de devoir repolliniser avec des moyens mécaniques ou chimiques.
Et alors ce qui est intéressant aussi, Angélique, c'est de regarder l'analyse du vote des parlementaires.
Oui, au niveau des États, précisons que la France était très seule pour soutenir en quelque sorte nos amis les abeilles et tenter de durcir cette réforme, là où l'Allemagne était beaucoup plus réticente. Et bien au niveau du Parlement, une bonne partie de la droite allemande a basculé et clairement évolué en faveur de mesures plus strictes, sans doute en raison de la poussée électorale des Verts dans le pays. Quant aux pays de l'Est, la Pologne, par exemple, qui est une zone de productivisme agricole, les élus du PiS se sont abstenus. Voilà un pays où l'on ne devient pas écolo pour autant, mais où on a compris que protéger la biodiversité, c'est aussi protéger ses ouvriers, bien sûr, des produits toxiques, mais aussi ses champs. C'est ce que me disait tout à l'heure un bon connaisseur du dossier. La Commission va donc revoir sa copie et retourner négocier avec les États, les ministres, à lire la réaction du commissaire européen en charge du dossier. Ça ne sera pas une partie de plaisir.
On va rester dans les institutions européennes un instant, Angélique, puisque aujourd'hui se tenait un conseil emploi.
Oui, où les 27 ministres en charge de ces questions ont adopté un programme sur le bien-être au travail. L'économie du bien-être vise à établir un cercle vertueux, en fait. Croissance économique durable et le bien-être vont de pair, peut-on lire dans ce document. On lit aussi qu'améliorer l'égalité homme-femme peut augmenter la richesse d'un pays de 9,6% d'ici 2050. Je vais revenir très vite sur ce sujet dans une prochaine chronique.
Voilà, et sans vouloir vous faire de peine, vous reviendrez très vite sur le Brexit aussi, Angélique, dans une prochaine chronique. Merci beaucoup et à jeudi prochain.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, ça dure depuis 3 semaines, ça se termine dimanche. Le synode sur l'Amazonie organisé par le pape François au Vatican est passé assez inaperçu, en tout cas jusqu'à présent, sauf qu'en coulisses, est peut-être en train de se jouer un bouleversement profond sur des sujets jusqu'à présent tabous comme l'ordination des hommes mariés. C'est votre monde à l'envers.
Oui, une nouvelle fois, ce pape est peut-être en train de secouer le cocotier. Ça se passe discrètement derrière un paravent, c'est presque un peu plan-plan, politiquement correct, sur la défense de l'environnement. 185 prélats, donc réunis à huis clos depuis le 6 octobre pour ce synode officiellement baptisé Nouveau chemin pour l'Amazonie et une écologie intégrale. Ils sont venus des 8 pays du bassin amazonien et ils ont rejoint des représentants de la Curie, le gouvernement de l'Église, si vous préférez. Quelques semaines après la controverse mondiale sur les incendies en Amazonie, l'affaire tombe à pic, mais en réalité, elle est prévue de longue date. La préparation a duré un an et demi avec des centaines de réunions qui ont regroupé 80 000 fidèles. Les premières conclusions emboîtent le pas à la conversion écologique, c'est pas rien quand même, initiée par le pape François avec son encyclique Laudato Si il y a 4 ans. On retrouve les mêmes thèmes, la préservation de la nature, la lutte contre les multinationales qui veulent accaparer les richesses, la nécessité d'une transformation de l'Église pour apprendre les langues et les cultures locales, la volonté d'un clergé sobre et dépouillé. La formule péché écologique n'est pas prononcé, mais c'est tout comme. Et en filigrane, on sent une volonté de décoloniser l'esprit de l'Église. Donc tout ça, c'est déjà beaucoup, mais il y a en effet beaucoup plus, et la suite, c'est de la dynamite.
Donc, à savoir la place des femmes et la place des hommes mariés dans le clergé.
Exactement, c'est-à-dire les deux grands tabous de l'Église catholique. Au départ, le constat est pragmatique. Dans cette immense Amazonie, il y a très peu de prêtres, à tel point que les fidèles, pour la plupart, ne reçoivent l'Eucharistie, le sacrement central dans le catholicisme, qu'une à deux fois par an. Et dans de nombreuses communautés, ce sont dans les faits, des femmes qui animent les activités religieuses. En partant de ce constat, les groupes de travail réunis pour ce synode viennent de rendre, là, cette semaine, des conclusions explosive en effet. 8 des 12 groupes de travail se prononcent ouvertement pour l'ordination des hommes mariés, les viri probati dans le langage de l'Église. Et 6 des 12 groupes préconisent, je cite, un ministère officiel de la femme dans l'Église. Comprenez, à minima, l'exercice du diaconat, c'est-à-dire de pouvoir célébrer les baptêmes, les enterrements. La proposition s'arrête donc juste un pas avant l'étape symbolique majeure, devenir prêtre et pouvoir célébrer des messes. Cette révolution, elle répondrait donc à la volonté de pallier le manque de personnel clérical en Amazonie, mais il y a aussi deux autres enjeux. D'une part, en Amérique latine en général et au Brésil en particulier, l'Église catholique, autrefois omniprésente et concurrencée, on le sait, par les évangéliques, les néo-pentecôtistes en particulier, qui regroupent désormais 30% de la population. Rome doit donc réagir pour séduire à nouveau, en particulier, les plus démunis. Et d'autre part, nous sommes en présence d'un nouvel épisode du bras de fer entre le pape François et cette curie conservatrice qu'il regarde comme rétrograde et coupée du monde.
Mais alors c'est juste un quoi? C'est un ballon d'essai ou ça peut aller plus loin?
Alors c'est toute la question. Pour l'instant, il est simplement question d'instaurer un rite amazonien spécifique, donc circonscrit à cette région du monde, mais des participants au synode parlent de laboratoire. Et alors là, ça dit autre chose. Il s'agirait donc de tester cette révolution avant de pouvoir l'étendre. Parce que si l'argument pour justifier la fin de ces tabous, c'est le manque de prêtres, ah bah alors l'effet domino peut être très rapide. Exemple simple, les campagnes françaises manquent de prêtres là aussi, donc pourquoi pas ici des femmes ou des hommes mariés. Ajoutons que dans certains pays, le clergé est disposé à cette réforme. On songe par exemple à la Belgique ou à l'Allemagne. L'épiscopat allemand s'apprête dans un mois à ouvrir un grand débat sur le sujet. Cela dit, les résistances de l'autre côté s'annoncent fortes au sein du clergé africain, américain, italien, français. Certains qualifient déjà ces propositions d'hérétiques, menacent d'un schisme carrément. En Australie, quand même ça vaut, le cardinal Pell a beau être au fond de sa prison après avoir été condamné pour violence sexuelle sur mineur, ça l'empêche pas de monter au créneau pour dénoncer, je cite, « un texte qui abîme la tradition ». Alors une fois rendues les conclusions de ce synode, le pape François devrait s'exprimer au début de l'année prochaine. Il aura du mal quand même à concilier tout le monde parce que les avis sont très opposés. Si le pape brise les tabous, ben il faudra se souvenir que c'est l'Amazonie qui a tout déclenché.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four, passionnant en tout cas, on le suivra avec plaisir. Le Monde à l'envers, donc tous les jours, merci beaucoup. Nous, on reste ensemble comme tous les soirs, le 18 devant la suite. C'est le téléphone sonne et puis juste avant, le journal de Pierre. Et ne bougez pas, à tout de suite.